Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Elle Etchart autour de son livre Tupa Madre, paru aux éditions Terrasse le 31 mars 2023 à la librairie Terranova.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Ce soir, on reçoit Elle Etchart. Salut, merci beaucoup d'être venus. Tu nous présentes ton bouquin Tupa Madre, et la rencontre sera modérée par Antoine. Éditeur des éditions Terrasse. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de parler des éditions de Terrasse et de ce travail aussi. Merci beaucoup, je vous donne la parole tout de suite.
Alors, on va commencer par une petite chanson. Non, c'est pas... 1, 2, 1, 2.
Ok, merci Toulouse de nous accueillir, quoi. Bref. Merci d'être là. Du coup, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis du coup un des membres des éditions Terrasse. Du coup, c'est vrai qu'on a été invité par Terranova pour présenter le dernier livre qu'on vient de sortir, ce roman qui s'appelle Tupa Madre, écrit par Lou, L. Etchart. Voilà, du coup, on est assez content en fait, de publier ce livre parce qu'en fait, dans le cadre de l'idée du catalogue qu'on a, qui est une espèce de croisée littéraire et poétique, un peu pour réfléchir qu'est-ce que c'est une écriture populaire, qu'est-ce que sont des écritures de lutte, sachant qu'on a commencé notre catalogue il y a à peu près 3 ans autour de la réédition de littérature et de poésie des années de l'Algérie en lutte des années 50-60. Du coup, en essayant de se caler sur ce cœur de lutte qui était une espèce de tentative littéraire, intellectuelle et de défense d'une littérature populaire dans un cadre de personnes qui luttaient aussi, c'est-à-dire poètes et combattants ou écrivants et en même temps militants pour... la libération, là notamment de l'Algérie. Mais du coup, c'était intéressant d'arriver à un moment où ce livre se présente à nous qui fait revivre de manière assez intense cette question de littérature populaire dans un cadre aussi de questions de révolution, lutte, émancipation, anti-impérialiste, etc. Du coup, voilà. Du coup, c'est quelque chose dont était assez clair, assez fier. Peut-être qu'on pourrait effectivement parler un peu des éditions Terrasse après. Mais là, on va surtout se focaliser sur le livre de Lou. Voilà, du coup, je pense pas qu'il y ait, comme il est sorti que vendredi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu. Du coup, mais vous le lirez, j'en suis certain, après cette rencontre, ça va donner envie. Et du coup, ce livre qui est en fait une espèce de double réflexion autour de la disparition de la mère de la narratrice, qui est en train de mourir d'un cancer et qui, parallèlement, en fait, était militante des Tupamaros, qui était un groupe. Révolutionnaire uruguayen des années 60-70. Et du coup, c'est la double quête de d'accompagner la mort de la narratrice dans sa mère et son cancer. Et en même temps, d'essayer de comprendre quelle place elle occupait au sein du mouvement révolutionnaire Tupamaros. Du coup, c'est un peu le double mouvement qui se situe dans ce livre. C'est un peu grossièrement, mais c'est ça. Et du coup, on s'est dit, pour pouvoir parler de ce livre avec vous et vous en parler, on pouvait commencer d'abord par lire quelques extraits pour que vous ayez une idée aussi de la langue et de comment il a été écrit, puisque aussi c'est un des enjeux de ce livre, qui est un enjeu de qu'est-ce qu'un dire ou une écriture populaire dans une langue qui n'est pas la sienne, puisque le livre a donc été écrit en français par Lou, dont ce n'est pas la langue, puisque Lou est uruguayenne. Tu dis si je spoil trop, mais c'est un peu pour mettre en perspective. Voilà, du coup... Si on peut commencer par ça, si ça vous va, de lire un petit extrait pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Ça te va ?
J'ai pas choisi l'extrait.
Je suis pas en forme non plus, mais attendez, j'arrive.
On a le temps. Okay.
Alors, bon, bah, j'ai avec un petit chapitre parce que j'aime pas beaucoup lire. Du coup, tu penses que c'est bien ça ou c'est mieux les trois que j'ai lus à la flèche?
Non, mais lis ça déjà.
Ça, ok. D'accord. Et mon pote Manuel, à chaque fois, il est perdu avec ma famille. C'est très simple pourtant. Je lui répète à chaque fois. Mon frère, Liber Tupac, et ma sœur Senia ont le même père qui n'est pas mon père et la même mère qui est ma mère. Ma sœur Alicia, elle a une autre mère qui n'est pas ma mère et un père qui est mon père. Et moi, je suis la fille de ma mère et mon père. Je lui fais un petit dessin pour qu'il comprenne. Il dit toujours trop compliqué. Mais t'es con ou quoi? C'est pas compliqué. Je lui fais des petits schémas. Il me dit, ok, du coup, t'as pas des vrais frères et sœurs, t'as des demi-frères et sœurs. Je le frappe. Des demi, ta gueule. Il me demande comment ça se passe si on habite tous ensemble. Là, je lui mens parce que c'est moins compliqué que de dire que mon frère, on sait pas trop où il est, qu'il disparaît et apparaît, que ma sœur s'est barrée avec son prof et mon autre sœur, on sait jamais si elle va partir habiter avec sa mère féministe qui dit toujours qu'elle va l'emmener avec elle dans ses voyages, puis non. Je lui dis que oui, qu'on habite ensemble, mais pas avec les pères et mères qui sont pas mes pères et mères. Trop compliqué. Trop pas. Faut dessiner sa famille à l'école. La maîtresse dit « faut dessiner » et en bas, mettre les prénoms des gens. Je suis trop contente, c'est mon opportunité pour démontrer que ma famille est normale. Je ne vais pas faire référence aux autres pères et mères qui ne sont pas mes pères et mères, mais sont les pères et mères de mes frères et sœurs. Complet. Je vais juste faire le truc normal et tout le monde va penser « ah, mais c'est hyper normal ». Même pas, personne ne va rien penser tellement ça va être pareil que tout le reste. Enfin, je dessine. Il y a ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, mon autre sœur, Nyanya et moi. En bas de chaque personne, ou chat, je mets les noms. Il y a certains noms qui viennent d'autres personnes. Faut quand même que j'explique ça, je pense. C'est hyper important. Mais je vais respecter la consigne, du coup je vais expliquer en dessinant parce que c'est la consigne. La maîtresse toujours me dit qu'il faut que je respecte plus les consignes. Lucia, c'était pas ça la consigne. Respecte la consigne, elle me dit. Je suis déter pour respecter la consigne. Je colle une deuxième feuille en bas de mon dessin. Du coup, je respecte la consigne parce que c'est une même feuille. Très bien. Je commence à dessiner les personnes à qui appartiennent les noms des personnes de ma famille. Je suis très fière du résultat. Je trouve mon dessin très clair. Je sais que tout le monde va très bien comprendre. Il y a le dessin de ma mère qui fait un pull en laine avec une main et tire les cartes de l'autre. En bas, j'écris son nom, Maria, entre parenthèses, Veronica. Maria, entre parenthèses, parce que personne ne l'utilise. Ma sœur Alicia m'a expliqué les parenthèses et je trouve ça magnifique comme outil. Et en bas de Maria Veronica, je dessine deux vieilles, les deux grands-mères de ma mère, Maria et Veronica. À côté du dessin de ma mère, je dessine mon père avec sa moustache. En bas, son nom, Rodrigo Mario. Entre parenthèses, je mets Moïse. C'est comment il avait été nommé, mais on lui a changé parce que ça faisait trop juif. Et en bas, comme je ne sais pas d'où viennent ses prénoms, je dessine un rat et une milanaise parce que c'est des trucs qui commencent par les mêmes lettres de son prénom. Mon frère, je le dessine avec ses longs cheveux noirs et sa tête de rien et une guitare. En bas, son nom, Liber Tupac. Et en bas, je dessine Liber Hernandez, l'ami de ma mère qui s'est fait tuer par un groupe de chasseurs de Tupamaros qui s'appelait l'escouade de la mort. Je le dessine par terre, brûlé par des cigarettes et coupé et saignant de partout. À côté, je dessine Tupac Amaru, le gros leader de la révolution anticoloniale. Je dessine aussi sa mort quand les colons lui ont attaché à chacun de ses membres un cheval différent et l'ont cassé en morceaux et aussi lui ont coupé la langue. Ma sœur Seigna, je la dessine avec des livres et des lunettes et son petit palmier sur la tête que j'adore. En bas, j'écris Seigna. Je dessine la meuf que j'imagine a sauvé ma mère, par lequel elle a son nom. Je dessine une meuf waouh, toute belle, toute pimpée. Ma sœur Alicia, je la fais en train de danser parce qu'elle aime bien ça, elle danse trop bien. J'écris Alicia et je sais pas d'où vient ce nom, du coup je lui dessine un arc-en-ciel en bas avec un cœur parce que je l'aime. Nyanya, je la dessine en train de prendre le soleil sur le trottoir. J'écris Nyanya et en bas, je dessine le moment où j'ai trouvé Nyanya derrière la maison de ma grand-mère. Moi, je me fais plus petite que le reste parce que je suis plus petite. J'écris Lucia, Lou, entre parenthèses. Et en bas, je dessine ma sœur jumelle, argentine, Rosita Margarita. Je suis très très fière de mon dessin. La maîtresse demande qui veut passer devant et commenter son dessin. Yes, je lève la main la première.
Merci.
De rien.
Applaudissez, non? C'était ouais, beau, non?
Alors du coup, c'est dit pour cette rencontre, c'est que comme en fait ce livre se situe vraiment à la croisée de la grande histoire, disons la grande histoire uruguayenne et son histoire de la libération et de sa lutte de libération, sa lutte contre le fascisme. Et du coup, le rôle des Tupamaros et de la petite histoire, c'est cette histoire familiale de ses deux parents, du coup les parents de la narratrice, de Lou, bon, qui sont effectivement qui étaient des militants Tupamaros. Voilà. Du coup, on s'est dit que comme en fait la question de l'Uruguay et de ses luttes sont assez inconnues, on s'est dit que c'est pas mal de commencer par un petit rappel de qui étaient les Tupamaros et quel rôle ils ont joué, puisque en fait c'est ça vient de ton histoire familiale. Ouais.
Bah, du coup, les Tupamaros, c'est un mouvement. En gros, il y a donc la grande vague impérialiste des États-Unis dans les années 50-60, donc après-guerre. Et du coup, il y a en ce moment une énorme alliance entre les gouvernements d'Amérique du Sud et les États-Unis. Et il y a la révolution en Cuba. Et ça fait un... Et le machin, URSS, tout le truc. Donc là, il y a une énorme vague de rébellion en Amérique du Sud, en suivant un peu l'exemple cubain. Et il y a les États-Unis qui, du coup, font un mouvement, font un truc qui s'appelle Plan Cóndor, qui est un énorme mouvement, un énorme programme d'impérialisme. Donc ils emmènent des flics, des gens de la CIA, pour apprendre à réprimer, pour apprendre la répression et aux flics sud-américains qui sont un peu nuls. Ouais. Et il y a moins de thunes et ils sont un peu nuls, ils connaissent rien de comment les États-Unis, ils font tout mieux, tu vois. Et du coup, ils font ça, ils font des petites écoles de répression des forces armées. Donc au Chili, ils vont faire un peu des expériments. Donc ils vont expérimenter au Chili avec el fusilamiento, comment on dit, le fusillage. Ils vont tuer des gens, quoi.
Les gens,
ouais. Ouais, ils vont tuer les gens en masse. En Argentine, ils vont les disparaître en masse. Et en Uruguay, ils vont les torturer en masse. Donc ils vont faire des... Surtout, ils vont les mettre en prison. Et là, ils vont pratiquer, ils vont faire des écoles de torture. Donc, tout ça fait monter beaucoup la pression. Il y a un climat de... Enfin, les gens crèvent de faim. Il y a une énorme vague de syndicalisation portée par les syndicats les plus pauvres de la campagne en Uruguay. Et du coup, ce mouvement syndicaliste rejoint les étudiants de collège, lycée, université, machin, et il y a un grand mouvement créé de résistance, les Tupamaros, et qui après, du coup, se dévie très vite dans un truc militariste. Donc c'est un groupe armé qui va faire des braquages, va prendre les armes, va faire une prison du peuple, donc va kidnapper des membres du gouvernement et des forces armées, va faire un peu des manifs sauvages, mais voilà, qui sont à fond la caisse pour, dans leur idée, Cuba, quoi, faire un truc de... Ils sont pas des communistes, par contre, ils sont en mode des alliances stratégiques de gauche pour prendre leurs meilleures productions, les moyens de production et le gouvernement, et faire la révolution et justice sociale. Ça se passe pas du tout. Donc, il y a une énorme répression en 72. Tout le monde est ou prisonnier ou exilé. Et du coup, l'histoire, c'est un peu comme mon père. Il est prisonnier politique, torturé. Puis ensuite, va être réfugié ici en France. Et ma daronne, elle reste à la rue. On lui kidnappe son enfant et on l'emmène ici en France réfugié. Et son premier enfant à venir beaucoup de temps après. Et un peu, mon daron, il a été, et comme pas mal de petits mecs des Tupamaros, il va être reconnu, il va être un peu reconnu comme héros de guerre, et puis ils vont continuer à militer pour prendre le pouvoir, le gouvernement, pas le pouvoir, mais dans les années 2005, donc beaucoup de temps après. Et par ailleurs, moi, l'histoire de ma mère, je la connais par vraiment petit bout. Après, je dépasse là la question, non ? Ouais, je me tais.
Non, mais j'allais te poser la question que tu veux commencer.
Ah, ouais,
en
okay.
fait, du coup, c'est aussi, quand on s'est rencontré avec Lou, d'abord, on s'est rencontré sur un autre projet qui était la traduction de la poète des punks à Valentin Yoshua. Et après, du coup, on s'est rencontré aussi parce que, du coup, Lou a...
Ah non, et là, et du coup, Loa a commencé à parler de ce projet, en fait, de se dire, en fait, j'ai écrit parce que je sais pas, j'ai mis du temps à savoir ce qu'avait fait ma mère, puisqu'il y avait ce côté où le désir radical politique d'extrême gauche parfois n'efface pas la question patriarcale qui fait qu'effectivement, il est facile de savoir ce qu'ont fait les hommes, on les reconnaît, voire on leur donne des récompenses, voire des positions politiques au moment où le pouvoir est pris. Mais ma mère est restée ma mère et en fait, j'ai jamais su ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a fait. Et du coup, c'est aussi l'enjeu de ce livre, c'est depuis petite, la narratrice qui essaye de reconstituer cette mémoire de Véronica qui potentiellement avait fait des choses, mais dont on ne sait rien puisqu'elle n'est jamais là dans les grands tablés de militants à raconter, elle, sa participation concrète au mouvement révolutionnaire et à la lutte armée. Du coup, ça devient un peu un enjeu de essayer de comment faire pour reconstituer cette mémoire au moment où la mémoire va disparaître, puisque c'est parallèlement aussi l'accompagnement de la mort de ta mère. Du coup, peut-être tu peux... J'ai tout dit là, mais tu peux développer ça.
Non, mais oui, en fait, moi, j'apprends très tard. Enfin, il y avait des trucs, comme il y avait tout le bail de mon frère, hein, tout était hyper tendu tout le temps. Mais moi, je ne savais rien. Moi, je suis née en démocratie après. Donc, quand ils sont retournés, ils ont vécu en France pendant 12-13 ans, puis après, ils sont tous retournés là-bas. Moi, je suis née là-bas, en démocratie, et c'était là en mode, bon, on ne parle plus, c'est fini. Et il y avait plein de trucs, je ne comprenais rien, il y avait plein de tensions d'histoire. Ma mère ne racontait jamais rien, elle avait des tafs hyper précaires, elle faisait que, je ne sais pas, taffer, s'occuper de absolument tout comme font les darons. Et quand elle est tombée malade, là, elle me sortait des petits bails, des petits trucs, où là, j'ai compris qu'elle était chef d'armes, notamment qu'elle était chargée de... des braquages, de la prison du peuple. Genre, la meuf, elle me parlait d'armes, je ne comprenais rien. Et du coup, là, j'ai creusé toute ma vie un peu pour savoir des petits détails, en ayant très peur de demander. Et là, j'ai fait ça et j'en sais pas beaucoup plus non plus, mais un peu. Mais du coup, c'est un peu ça, le livre. C'est un peu une, je sais pas, une petite quête, une petite paranoïa permanente, une obsession de découvrir et en même temps une rage énorme qu'une meuf qui a fait tout ça et a vécu dans le silence et dans la culpabilité des conséquences de cette décision politique radicale meurt comme ça et que sa parole soit nulle part et qu'elle juste elle disparaisse alors qu'elle a fait plein de trucs et que aussi dans les actions de je pense de chaque jour des personnes. Tu vois aussi, il y a une transparence par rapport à qui est la personne. Enfin, moi, je voyais plein de trucs dans ces trucs quotidiens de son passé. Du coup, il y a aussi ce truc de revendiquer aussi les darons en tant que... entre les meufs et les darons et les personnes un peu mises de côté par le système, par le hétéro, aussi le patriarcal truc... qu'en vrai, il y a plein de résistance. La résistance, elle est là tout le temps. Elle est dans les espaces qu'on nous donne. Elle n'est pas aussi shiny et si héroïque et si nanana comme les mecs qui peuvent en avoir toute la place. Donc, parce qu'ils ont toute la place et du coup, ils se baladent dans tout l'espace. Et du coup, c'est un peu cette revendication-là un peu énervée. En fait, il y a plein d'histoires dans le silence et... de les sortir un peu, de les faire remonter dans la surface, quoi. Voilà.
Il n'y a pas de questions, encore. Du coup, ce qui est beau dans ce livre, c'est que du coup, il y a cette quête du coup, de filiation, disons, féministe et du coup aussi politique, puisqu'il s'avère que la narratrice est aussi du coup une personne politisée qui embrasse une partie des idéologies, peut-être pas de la même manière de les vivre, mais en tout cas des mêmes constats. Politique et il y a aussi ce mouvement du coup très existentiel du sens de la vie et de la mort qui approche et du lien de la famille, de la mère qui est en train de mourir et de son histoire et de l'amour et du coup de la maladie qui l'emporte. Et du coup, c'est assez prenant, poignant, je dirais. Et du coup, il y a du coup toute une partie du livre est autour de la question du sens de la famille, aussi de la vie de quartier, puisque ceci a c'est un livre qui se situe à Montevideo, dans la vie de Montevideo, avec la vie que c'est, avec les gens qu'il y a. Et du coup, c'est quelque chose de, enfin, qui est assez beau de cette description de vie populaire, familiale et populaire qui s'y déroule. Et tu veux lire ça, c'est trop.
Je lis ou pas? Ouais. Moi, je déteste qu'on me lise. Mais si vous, qui va vous être là après? Mais bon, touche pas. Alors, ma mère, c'est glauque. Hein. Ma mère a la tête enfoncée dans mes jambes. Je lui caresse le crâne chauve, les épaules, les os du dos. Elle pleure. Ariel est là dans le coin, regarde son téléphone en silence pour pas regarder ma mère. Pour nous laisser avoir ce moment, mais m'accompagner quand même. Je voudrais dire à Ariel de partir, d'aller faire les trucs que font les gens, de kiffer la vie, de fuir ce trou, de me laisser seule pourrir dans le trou avec ma mère. Jamais j'ai pensé que ma mère pouvait pleurer comme ça. Elle hurle. Je sens mon short se mouiller de ses... C'était ce même short. Juste une petite anecdote. Je sens mon short se mouiller de ses larmes qui passent à travers le tissu jusqu'à ma peau. Short en Chine, quand même. Il y en a d'autres qui vont directement sur ma chambre et coulent jusqu'à mes pieds. Je sens son visage trembler. Elle dit un truc que j'arrive pas à comprendre avec les sanglots. Une phrase qu'elle répète. Elle s'étouffe et arrête un peu. La phrase apparaît. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Elle recommence à pleurer, crier, hurler, trembler, étouffer. Je dis rien. Je pense même pas à parler. Est-ce que j'ai parlé déjà dans ma vie? Je le sens comme une activité que j'aurais fait il y a des décennies et je me souviens plus comment ça se fait maintenant. Je me souviens d'avoir parlé, d'avoir eu des conversations avec les gens, pendant des minutes, des heures et tout. Mais là, c'est fini. J'aurai plus jamais de ma vie rien à dire. Je la caresse. Elle pleure, les larmes coulent, ma gorge me fait mal. Je fixe le canapé rouge, je cligne pas des yeux. Avec mes doigts, je dessine des petites vagues sur son crâne. Je sens des tout petits poils bébés qui poussent. Ils poussent parce que les médecins ont arrêté de lui filer la chimio, parce qu'ils disent que les médicaments sont pas testés au-delà de 6 mois et que là, ça fait presque 2 ans qu'elle les prend. C'est risqué de l'intoxiquer comme ça, ils disent. Qu'elle a dépassé largement la moyenne de survie, ils disent. Je dis rien, je pense rien, mais je vois. Je vois dans les os de son dos, je vois dans les poils bébés de son crâne, je vois dans les larmes qui se faufilent entre mes orteils. Je vois l'histoire se répéter et se répéter et se répéter. Toutes les pistes du passé que j'ai pu prendre, une dizaine de toutes petites pièces, me font voir clair le résultat du puzzle 1000 pièces. Je la vois kidnapper des membres des forces armées, je la vois enfoncer une mitraillette dans le conducteur d'un camion rempli d'armes, je la vois remplir son sac de maternité d'armes, je la vois à la rue avec son premier bébé, je la vois perdre son premier bébé aux mains des flics, dormir à la rue, seule dans la rue, crever de faim dans la rue, enceinte de bébé numéro 2, cherchant toutes les nuits un nouveau refuge dans un nouveau petit coin caché de la rue, partir enceinte au Chili, accoucher caché derrière un matelas pour se protéger des balles, crever de faim dans le refuge, partir se réfugier en France avec un bébé maigre et un bébé en moins. Les médecins ont raison pour une putain de fois. Elle a grave dépassé la moyenne de survie. Je la vois dans le HLM à Nanterre, s'enfermant dans les toilettes, la tête enfoncée dans une serviette, attendant que ses yeux arrêtent de pleurer, pour se maquiller les bleus, pour partir travailler dans l'atelier de couture, pour donner à manger au gamin qui est son fils, qu'elle a eu la dernière fois quand il avait 10 mois, qui vient d'arriver en France après 8 ans, et à sa meilleure amie, sa gamine de 7 ans, qui veut être danseuse de ballet et s'acheter des jouets et faire tout ce que font les autres gamines de 7 ans, et au mec qui étudie la philo, donc pas le temps de travailler, qui est son mari, qui lui a mis les coups, qui l'ont rendue experte en silence et maquillage. Je dessine des petites vagues sur son crâne jaune, mes petites vagues essayent d'absorber un peu la douleur, de me la partager. S'il vous plaît, s'il te plaît, s'il nous plaît, qu'elles absorbent, qu'elles absorbent, qu'elles absorbent.
C'est vrai que j'ai pas choisi le passage
bébé,
le plus
joli.
Non, oh, je pleure pas. Bah, c'est émouvant. Bah, c'est un livre où, en fait, beaucoup de gens qui l'ont lu ont pleuré. Alors, je sais pas si c'est vendeur comme argument.
Beaucoup de gens qui l'ont écrit ont pleuré aussi.
Voilà, des gens qui l'ont édité ont pleuré. Et du coup, ça pose une question que je me demandais, c'est ça fait quoi d'écrire sur sa mère, ou qu'est-ce que tu aurais pensé que ta mère penserait de ce geste que tu fais de ça? Non, mais je pense que c'est une question intéressante de savoir comment on refabrique la mémoire de ceux et celles qui sont partis quand on le fait sans vraiment être certain que c'est ça qu'ils auraient voulu faire ou non. dire skip et je
pense. Ouais, du coup, là, c'était c'est quoi d'écrire c'est horrible d'écrire ça. Enfin, en même temps, c'est cool, mais c'est un peu un truc. Je sais pas. C'est un peu un vomi, c'est un peu le deuil. J'ai commencé à l'écrire juste après sa mort. J'étais très vénère. J'étais très triste, mais un peu bloquée. C'était très bizarre. Du coup, j'ai écrit très vite. Après, je relisais ce que j'avais écrit. J'étais là, waouh, ok. Mais je sais pas, j'ai jamais écrit trop autre chose ou une chose qui s'est publiée. Du coup, je sais pas trop les processus d'écriture, mais moi, je sens que quand t'écris un truc de comme ça, un peu pour de vrai, moi, ce qui m'arrive, c'est que là, je peux pas trop le enfin, je sais pas, que c'est un peu trop intense. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais écrire des trucs de fiction pour les enfants, je sais pas, des trucs avec des petits chats et des trucs comme ça. Et aussi, c'est le deuil. Donc, du coup, c'est aussi un truc qui me rapproche d'elle. Moi, on était un binôme hyper fort avec ma daronne. Elle m'a toujours... Enfin, on était un couple, quoi, fort. Et elle m'a toujours soutenue dans tous mes trucs, dans la queeritude, dans la folie. Et moi, elle, je pense qu'on était des personnes aussi très... Enfin, elle, très seule, et moi, construit aussi dans une solitude très forte, aussi par la gouinerie, parce que j'étais la seule gouin de l'univers jusqu'à très tard, quand il y avait eu d'autres gouines, mais il n'y en avait pas, ça n'existait pas, et j'avais aucune représentation de ça. Donc aussi, on a partagé une certaine solitude par d'autres trucs, on était ensemble et sans parler. Moi, je n'ai pas dit en mode « Bon, moi, je suis seule parce que je suis gouin et toi, tu es seule parce que tu as fait tout ça et je ne sais pas quoi. » Du coup, on était là en mode « Chut, chut !» et on allait ensemble. Et je pense que ça a créé un lien très, très fort, une solidarité très forte. Et du coup, c'est intense, c'est une façon de... À un moment, je sentais que... En fait, j'aurais pu continuer à écrire le livre pour toujours, mais il y a eu un moment où j'en avais marre de traîner avec la meuf tout le temps. Tu vois, j'étais là, bon, là, c'est fini. C'est pas fini, mais c'est fini. Il faut que je passe à autre chose. Et c'est le moment où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs aussi. C'est un peu où on a fini le livre, merci paroxétine. Et du coup, ça, c'était cool. C'est cool de le finir. Par contre, elle, franchement, je sais pas si je me demande là... Je sais pas, qu'est-ce qu'elle en penserait, j'en sais rien. Je pense qu'une énorme partie d'elle serait très vénère contre moi en mode mate. Parce qu'elle me l'a dit, en plus, quand j'étais là, je lui demandais des questions, elle était là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas écrire, tu vas faire un truc chelou. Moi, je veux rien faire, tu vas faire un truc. Et on a beaucoup discuté de ça, enfin, de moi, je voulais, hein, là, du coup, ouais, un peu avant de mourir, elle était là, non, mais je sais que tu vas faire un truc, bon, fais ce que tu veux, bon, bref, non, non, non. En fait, je sais pas, elle voulait pas. Du coup, je me sens un peu dans un forcing post-mortem, je sais pas, un truc un peu chelou. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup douté à le publier parce que je crois à des trucs et je crois qu'elle est là et je crois qu'elle, à un moment, elle va me dire ce qu'elle sent et je vais vous le dire dans le prochain livre. Mais je sais pas. C'est pas une meuf qui voulait mourir et qu'on fasse un livre d'elle. Ça, c'est sûr. Et moi, je savais ça. Et je suis ici, à Toulouse, maintenant, en train de parler de ça. Donc, j'en sais rien. C'est pas un truc que j'ai énormément réfléchi. Du coup, il s'est fait un peu vite. Et du coup, maintenant que je réfléchis, c'est trop tard. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est une sorte de saga familiale qui survit aux conséquences de l'engagement de politique radicale ou de l'engagement, disons, dans la frange radicale de la lutte armée, de la révolution, et qui, en fait, à un moment, paye les conséquences, qui est l'exil, qui est les séparations familiales, qui sont aussi les ruptures familiales que ça crée ou les problèmes de santé mentale ou d'exclusion ou de marginalité des enfants. Et il y a toute cette question qui est posée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que
Enfin, j'en sais rien parce que ma mère n'est pas morte et en plus, je sais pas si j'écrivais un livre sur elle. Mais. Oui. Mais non, non, mais ce qui est intéressant, c'est de se retrouver dans comment on parle de sa mère, en fait, dans un contexte plus large d'autre chose. C'est-à-dire que c'est pas un livre hommage, c'est un livre plutôt vérité et beau. C'est-à-dire qu'en fait, ça pose la vraie question de, aussi du sens de la vie, du sens de l'engagement, des conséquences de l'engagement. Qu'est-ce que ça produit ? Et c'est vrai que souvent, pour ceux et celles qui se sentent investis dans un désir de révolution, en fait, souvent, en fait, pour s'investir dans la lutte, souvent, on pense pas forcément à ce que ça va produire sur nos amis, nos enfants, nos familles ou nos non-enfants. Et du coup, c'est vrai que par le récit, par la tentative de reconstitution du rôle et de l'histoire de Véronica, il y a aussi cette question, ces questions qui se posent. Et c'est pour ça que peut-être tu peux... Parce que tu peux aussi décrire un peu le cheminement, tu vois, de Véronica, où elle a été, tu vois, le Chili, Paris, nana, ou pas d'ailleurs. Pour un peu comprendre. Parce que l'autre question, c'était au fait... aussi d'un truc de langue et comment toi t'as écrit ce livre, tu vois.
Ouais. Mais ça... Oui. Non, je voulais dire juste avant, je parlais l'autre jour à la flèche. Putain, attends, c'est parti. Non, ah oui, qu'en fait, les Tupamaros, quand ça commence à être la merde et que les gens commencent à mourir à balles, à tuer, à assassiner, machin, et que voilà, répression policière fois 1000 et tout, et prison et exil, et ça commence à se vider. Dans l'orga, ils disent un truc, on ne va pas juger, mais ils disent « reproduisez-vous ». Genre, enfants, maintenant. Genre, allez-y, ça baisse, ça fait des enfants, maintenant. En mode, laisser une trace. Et je pense qu'il y a dans ce truc un peu un truc de choix politique. Ce n'est pas pour me justifier que j'ai écrit un livre sur Manon, mais il y a un truc de, bah, en fait, t'es pas, ton existence te dépasse. Et t'es pas, c'est horrible de dire ça, mais t'es pas toi-même dueño, propriétaire de ton existence. Ton existence t'appartient pas complètement. Et je pense qu'il y avait aussi cette culture, au moins en Amérique du Sud, avec tous ces mouvements de révolte, révolution, de comment porter la mémoire, alors que... En fait, après ça, il y a eu un énorme silence au niveau de l'État, du gouvernement. C'est un peu ici comme, enfin ici et l'Algérie. Enfin, il y a un truc où en fait, c'est pas, l'histoire est pas racontée. On se tait, on dit pas ce qui s'est passé. On finit l'histoire à le dernier mec qui est monté à cheval avec le drapeau, pipipi, qui descend des colons, et je sais pas quoi. S'il te plaît, je connais tous les noms des rois de France, tu vois, enfin, et Robespierre, Montesquieu et Voltaire et tous les machins. Donc, on apprend votre histoire, on n'apprend pas la nôtre et on est là, après les années 60, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas comment j'ai commencé cette phrase, je vais finir là. Toi, ta question, c'était quoi ?
Non, mais je pense que c'est... Bah non, mais parce qu'en fait, c'est aussi... C'est...
Attends. Non.
Mais moi, attends, je peux compléter.
Okay, ouais.
En fait, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, ça me fait penser à un livre qu'on vient de publier à Terrasse qui s'appelle Uru Lumumba, qui est en fait l'histoire de Serge Michel, qui était un militant internationaliste. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Voilà. Qui, lui, pour part en Algérie dans les années 50 pour soutenir la révolution algérienne de libération. Et qui, quand Lumumba est en fait élu président en 61, part couvrir la question et en fait s'entend très bien avec Patrice Lumumba et se fait. Et du coup, Lumumba lui propose d'être son attaché de presse. Et du coup, pendant 3 mois, jusqu'à ce que Lumumba se fait assassiner par Mobutu et les Belges. Mais du coup, il a écrit en fait un récit historique, mais vivant. C'est-à-dire que c'est un peu l'anti-livre historique. C'est-à-dire en fait, comment à un moment, on se met à raconter l'histoire de la révolte, l'histoire des luttes, l'histoire de l'émancipation, par ceux et celles qui la vivent. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des documents comme ça qui sont intéressants, parce qu'en fait, ils sont racontés par... ceux qui l'ont vécu et pas par des historiens qui en fait racontent en récoltant nombreux éléments archives et témoignages, etc. Et du coup, c'est aussi ce dont parle ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comment se réapproprier de l'histoire et la manière dont on veut la raconter. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc très important dans les mouvements radicaux et marginaux et de lutte, c'est qu'il y a tout l'enjeu politique de comment on va raconter notre propre histoire. Et du coup, il y a un double enjeu là qui est raconter cette histoire-là, mais à travers celle qui en est héritière, qui ne l'a pas vécue, du coup, qui reçoit et une partie de l'histoire et partielle, du coup, toi, tu parles à compléter sous tes perspectives aussi politiques à toi, qui seraient, disons, féministes pour
si on veut élargir par rapport au rôle de ta mère. Et du coup, c'est intéressant un peu de se penser ce truc-là de comment on fait pour écrire sa propre histoire. Et c'est aussi intéressant comment ton roman ou ton livre, en fait, décide de raconter cette histoire-là, mais par un biais concret, réel et populaire. C'est-à-dire, c'est quoi nos vies en dehors de alors il s'est passé ci, ils ont fait ça, c'est qu'est-ce qu'en fait qui sont les gens dans leur vie au quotidien, même si c'est après que ce soit produit, mais il reste en fait la conséquence et l'écho de cette lutte. Et c'est pour ça que c'est comme si en fait on parle de cette période historique, disons, de la lutte des Tupamaros, toute cette période de l'Uruguay, par son écho historique et réel et populaire par les gens qui l'ont vécu et traversé. C'est pas vraiment une question, mais moi je suis spécialiste pour pas vous poser des questions. Ah, mais il y a une question.
Voilà. C'était une question toute simple. Tu en as parlé tout à l'heure de la question de la langue. Est-ce que ça s'est posé pour toi? S'il écrit en espagnol, en français, pourquoi le choix du français, si c'était un choix?
Oui, et du coup... Oui, moi j'ai appris le français en écoutant mes sœurs parler français chez moi. Et quand ma mère est morte, je voulais partir. Enfin, c'était un truc que j'étais vraiment mal. Quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, quand, comment, En fait, j'ai commencé à écrire ça. Quelqu'un m'a dit en espagnol, tu peux te présenter pour une bourse à Paris 8 pour un master création littéraire. Quand je rentre dans la page, c'était un monde de Flaubert. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'était pas ma gamme. C'est là, ok, très bien. Et donc, j'ai présenté le projet. J'ai eu un entretien extrêmement merdique, vraiment horrible, et où j'étais complètement à l'ouest, très droguée, très bourrée et très mal, et je savais pas du tout ce que je disais. Du coup, ils m'ont pris. Ouais, parce que on connaît les Français qui ils aiment quand c'est un peu exotique, tu vois. Donc ils ont dit, cette meuf toute pétée, on va la ramener, ça va être intéressant. Du coup, j'ai eu cette bourse pour faire un an de master. C'était une expérience un peu bien et très mal. Enfin, vraiment, genre 5% cool et l'autre reste 2% nul. Mais on s'est connus avec... Tu m'as fait un petit câlin, non ? Tu m'as fait un petit câlin ?
J'avais un cheveu.
Bon, on s'est connus avec cette personne. Et ça, c'était cool. Ça, c'est le 5%. Et du coup, là, j'ai commencé à écrire en français. Et du coup, j'ai écrit dans un français qui était assez critiqué par le master parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce que c'était hispanisé, parce que, les expressions et tout, ils étaient là. Franchement, ça va très, très bien s'éditer. On corrige les trucs et après, ça passe. Et ça m'a fait tellement chier d'avoir ce truc de... En fait, tu kiffes le contenu, mais tu me fais chier sur la forme alors que tu peux le lire. Et que moi, je suis là à galérer pour lire tes putains de trucs tous compliqués, alors que tu pourrais... Tous tes livres, je pourrais les prendre et les faire en une fucking phrase. Enfin, le français est quand même assez... C'est compliqué. Donc, et exprès, moi, je trouve. C'est ta opinion. Du coup, j'étais si vénère que j'étais là, mais Nick, en fait, je vais écrire dans comme j'écris. Et ça, c'est ma langue. Et ça, c'est le français qui sort de moi quand j'écris. Et du coup, c'est aussi pourquoi j'ai publié avec Terras, parce que Terras m'a dit, on va te publier comme ça, on va te défendre. Après, j'ai quand même adapté parce que c'était vraiment illisible. Vraiment, genre, c'était n'importe quoi. Si jamais je vous envoie un SMS, vous allez voir que c'est un peu galère. Mais du coup, j'ai adapté pour qu'un minimum soit nanana, mais j'ai pas mis tous les trucs qui, pour moi, n'existent pas dans ma tête. Les doubles les triple T, les accents comme ça, en dessous, en dessus, de côté, les CC avec le truc, les apostrophes, ça, il n'y a pas. Je ne trouve pas ça nécessaire. Et aussi, en français, quand j'ai commencé à écrire, c'était un truc trop bizarre parce que comme je n'ai pas trop de... C'est pas ma langue, ça s'écrivait autrement. Enfin, je ne sais pas, c'est écrit autrement. C'est bizarre. Ça sortait et... différent, je pourrais pas traduire ce livre, je devrais le réécrire. Et c'était un exercice assez cool. Je pense que ça m'a permis d'écrire parce qu'en espagnol, j'étais très bloquée par l'émotion. Et je pense qu'il y a un truc là. Je ne sais pas si c'est trop hippie ou neuroscientifique. Je sais pas. Mais il y a un truc où ça m'a débloquée un peu. Je sentais un peu comme une... Comment on dit une... Oui, comme, si, comme une dissociation. M'entendez? Eso, ahí está, como disociada.
C'est ce qu'elle dit Laura Alcoba, je ne sais pas si tu as lu La Casa de los Conejos, qu'elle l'a écrit en français parce qu'en espagnol, bon, elle avait vécu ses premières années en Argentine pendant la dictature et qu'elle avait surtout appris à se taire et à cacher des trucs et que le français lui permettait justement de débloquer des choses et sans doute de mettre de la distance.
C'est très ouf ça. C'est très... Oui, je pense que c'est la langue de l'école. Je ne sais pas, il y a un truc où c'est la langue normée aussi. Je ne sais pas, ça sortait. Et aussi, je ne sais pas, moi, quand je suis seule chez moi, des fois, et je parle seule, comme tout le monde, je fais des accents. Par exemple, je parle beaucoup en espagnol d'Espagne pour me parler à moi. Ou je ne sais pas, je parle en anglais ou en portugais. Enfin, il y a un truc où, des fois, ça, il y a des trucs qui se... Je ne sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais il y a un truc qui s'est fait. Et du coup, j'étais là, bah, OK. Et si ça peut faire chier des Français au passage, tant mieux. Voilà, c'était win-win pour moi.
Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est, enfin, on s'est pas du tout posée, puisqu'en fait, ça, en fait, on a trouvé ça vraiment hyper poétiquement, genre hyper pertinent de se dire, en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des langues qui ne sont pas les siennes parce que c'est des personnes migrantes, c'est des personnes exilées, c'est des personnes qui sont forcées ou non de vivre dans un autre pays que le leur ou qui font le choix d'y vivre. Et en même temps, la langue qu'ils fabriquent, la langue qu'ils revendiquent, qui sont souvent des langues, disons, coloniales, que ce soit l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand ou je sais pas quoi, enfin les langues, disons, de l'occidental flamboyant, entre guillemets, machin et tout, bah, ça fait que ces langues-là, en fait, pour que la parole de ces hommes, ces femmes, ces personnes-là soient entendues, il faut voir qu'elles s'adaptent aux codes grammaticaux, aux codes d'orthographe, aux codes d'une langue bourgeoise et de pouvoir, une langue de transfuge, finalement, et que, en fait, là, au contraire, on s'est dit, c'est vraiment le moyen de défendre ces langues qui sont tout aussi légitimes, tout aussi compréhensives, mais qui sont une appropriation, de, notamment, de la, par exemple, là, pour le coup, de la langue française, qui est finalement la langue que tu as héritée de tes parents exilés politiques, en fait, il y a tout ce truc-là, et qu'en fait, comment en fait, cette langue, elle est appropriée, elle est transformée, et elle est brisée, cassée et traîtrisée. Et en fait, il y a quelque chose de super... Il y a deux choses. C'est, un, déjà, c'est très beau, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, on peut... écrire, lire et comprendre le français de toute autre manière que celle qui est institutionnelle et qui, avec laquelle tout le monde nous bolosse pour dire il faut que ce soit écrit comme ça pour que ce soit bien, de un, de deux, et de aussi de se dire que en fait la langue, c'est comment on se l'approprie, on la casse, et en fait on casse toute la force symbolique qu'elle est censée porter, et ça permet ça libère quelque chose. Et du coup, oui, le livre, alors si on parle de l'édition, on s'est quand même attaché à ce qu'il y ait la langue de Lou fasse système. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a jamais d'apostrophe. Tel mot, s'il n'y a qu'un N au lieu de deux en normal, enfin comme il faut, il n'y en a qu'un. Tu sais, il y a quand même. Mais Luc.
Non, mais Luc l'a fait.
Bah, en tout cas, c'était un peu l'idée de systématiser au maximum pour qu'il y ait quand même une espèce de. Si cœur, ça s'écrit K-E-U-R, ce soit écrit comme ça partout. Mais après, c'est peut-être des coquilles de coquilles. Du coup, ça, c'est très méta. Parce que dans nos livres, vu qu'on est une maison d'édition où personne n'est payé, où on n'a pas de locaux, on n'a pas de moyens, du coup, c'est les camarades qui font les relectures. Du coup, parfois, des coquilles. Mais là, vous ne pouvez pas savoir. Du coup, là, c'est super aussi intéressant.
Énormément de coquilles. C'est le code Da Vinci. Je vous invite à les découvrir. Et vraiment, dans la dernière relecture, Luc m'a dit, bon, j'ai corrigé tout, relis. Je n'ai pas relu. Et j'ai dit à Luc, bah, j'ai relu. Et du coup, il y a genre, bref, je vais vous laisser découvrir, et c'est comme ça, et je pense que c'est cool.
Bon, je vais parler en espagnol. Cuando vi tu libro, bueno, cuando vi en el programa de cine latino, el tema de que escribías en un francés, era el tuyo, ¿no? Como en un francés. ¿Qué? Aparece en el programa.
Robado.
Bueno, parece para invitar acá al evento. En fin, que no, que escribas como en el francés que te salía, en tu lengua. Me pareció, o lo relacioné mucho como Gloria Anzaldúa, reivindicó esa forma de escritura y de hablar de las chicanas, ¿no? Como existimos a pesar de nosotras y a pesar de que ustedes no quieren que existamos. Y quería saber un poco si tenía alguna relación también esa pararte en la raya y decir, así escribo, así hablo, y hagan el esfuerzo de entender, ¿no? Que yo siento que es un poco lo que nos pasa día a día a las y los migrantes en este país, que los franceses y las francesas a veces no nos quieren entender. No es que no hablemos bien, es que no nos quieren entender. Y eso por un lado. Y el otro lado, que no sé si es una pregunta muy íntima, si no quieres no me la respondes, obvio, es cómo se dio ese proceso de pedagogía política en tu casa, con tu madre. ¿Hubo ese proceso de transmisión de las ideas políticas, de las reivindicaciones, de las banderas? ¿O fue esa misma búsqueda tú de las pistas que te dejaban, cómo la asumiste? Esas dos.
¿Cómo querés que te responda?
¿Quieren que traduzca? ¿Voulez que je traduise?
Oh. Non, je peux répondre sinon en français, ça va.
Ok.
Et du coup, attends, première question, c'est... oui, en fait, par rapport... tu parlais de Gloria Anzaldúa et la chicana, c'est... Et bien sûr, en fait, je pense que il n'y a pas... Quand je parle aussi de résistance à petite échelle et à prendre l'espace qu'on te donne, c'est aussi, en fait, à quel prix tu rentres dans des institutions. Et la France, en tant que territoire colonial, genre, ils ont colonisé il y a 2 jours, tu vois, enfin, c'est maintenant, et ils continuent à être et à exister dans le sol du sang qu'ils ont produit, quoi, c'est ouf. Et je pense que, du coup, ça, qu'ils aient des monopoles institutionnels par rapport à plein de trucs, tu le sens après quand t'es là et que t'es pas d'ici. On te le fait sentir que tu dois faire un effort, cet effort supplémentaire pour appartenir parce que c'est la France et du coup, en fait, moi, autour de moi, tout le monde était là, s'il te plaît, genre, pour une fois, rentre dans le truc, genre, t'as pas 20 ans, tu vois, tu sais rien faire, tu taffes dans un putain de boîte, en fait, j'ai aussi une maladie du dos, je suis handicapée, bref, il y a des trucs où c'était là, en mode, rentre dans le système, tais-toi et fais l'effort. Et je pense qu'il y a ce truc aussi, je pense aussi hérité de ma mère et des personnes que j'avais autour, mais principalement ma mère, de non, enfin je sentais que c'était un peu me vendre et un peu je sais pas, en fait ma mère détestait la France énormément, enfin elle avait un énorme truc, elle détestait la France, les Françaises, les Français, enfin il y avait un truc très fort là-dessus et elle a dû énormément travailler pour apprendre à bien écrire, à bien, enfin faire tout le truc. Et elle était assez, enfin pas dire non, mais assez soumise pour pouvoir survivre dans un minimum dans le système. Du coup, je pense que ça m'a laissé à moi la chance de pas l'être. Tu vois, ça m'a donné à moi l'espace de le privilège, même si ça l'est pas, de pouvoir me bagarrer un petit peu. Et si ça veut dire que je vais pas être publiée en édition Grasset, ok, tu vois, on va faire le petit sacrifice. Et du coup, c'est ça, en fait, pour moi, c'est un peu... je sais pas comment... un poil dans la langue. Et c'est un peu... je sais pas, j'ai senti plein de trucs en même temps, de rage et de... tu vois, je disais, il y a Nakamura, tu vois, enfin, il y a quand même un truc, il y a quand même beaucoup de trucs qui résonnent autour. Moi, je m'entends bien, j'ai des personnes très proches qui savent pas écrire et lire en français, qui sont pas, et je veux, en fait, si ces personnes peuvent me comprendre, je m'en tape du reste. Et si la personne qui a lu tout Foucault peut pas me comprendre, bah, c'est ton problème, frère, tu vois. Enfin, c'est pas, je sais pas si ça, ça répond à ta question, mais. Oui, je pense qu'il y a. J'ai pas beaucoup recherché sur la question de qui l'a fait quoi, mais pour moi, c'est sûr que c'est une lutte, une résistance qui est très présente dans tous les, dans toutes les frontières et dans tous les délires, les bails de populations migrantes et territoires coloniaux, quoi. Et après, la question intime, c'était comment ma mère m'a transmis, si elle m'a transmis les machins. En fait, non. Bah, en fait, on parlait pas de ça. Et du coup, on parlait pas, mais par contre, des fois, elle te sortait des pas, tu vois, enfin, des trucs comme de, ça, c'est un, non, tu fais pas ça, ça, c'est impérialiste, machin, non, tu, enfin, nanana, l'anglais, c'est de la merde, les, enfin, elle te sortait des petites phrases comme ça, qui, du coup, étaient pour moi, oui, c'est piste. Et je pense qu'il y a une pratique politique dans les actions de la vie. Dans la vie de quartier, déjà, pas mal. Dans la vie populaire de quartier, il y a un truc de... En fait, c'est des réseaux de solidarité. En fait, ça fonctionne d'une façon très militante parce que c'est des endroits qui ne sont pas très... je sais pas, ils ne sont pas très hauts dans la pyramide des trucs. Et du coup, bah, en fait, c'est des personnes là qui sont laissées là et qui, du coup, ont beaucoup de... Bah, il y a beaucoup de trucs... tout est politique, quoi, d'une certaine façon. Et si tu sors de là... Et tu vois que ça ne se passe pas ailleurs. En fait, moi, c'est là que j'ai réalisé un peu... voilà. Après, moi, j'étais tarée, vraiment, sur des trucs de... Enfin, sur son, leur histoire. J'ai fait beaucoup de recherches quand j'étais petite. Et je me suis mis dans le... Je me suis mis à militer dans un parti politique à 13 ans. Ouais. Ouais, après, c'était nul. J'étais un petit... le fin fond des soldats. J'étais en mode... toi, va je sais pas, peindre ce mur. J'ai fini et maintenant, pas peindre l'autre mur. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et après, on m'a laissé genre donner un tract. Tu vois du coup, voilà. Et, mais du coup, j'étais... Ouais, j'ai fait parti politique. Après, trop Gwyn pour parti politique, trop queer. Après, trop bi pour les Gwyn, après, tu vois, et du coup, constamment en fuite. Donc, si vous connaissez un parti politique ou un mouvement queer qui peut bien m'héberger, je prends. Ouais.
Dans toutes tes colères ou ta rage, j'ai l'impression que les militants des années 70 ont échappé un petit peu à tout ça, dans le sens où tu as l'air de t'inscrire... dans la tradition parentale, si je comprends bien, et que la si critique il y a, je n'ai pas lu les livres, hein, d'après ce que j'entends, c'est plutôt les côtés virilistes ou d'en faire des héros davantage des mecs militants que des femmes, mais par rapport à cette génération militante, tu n'as pas de la colère ou des reproches ou des critiques? Enfin, je dis ça parce qu'en Argentine, par exemple, et bon, moi je suis argentine, il y a toute la génération des enfants où il y a eu des critiques, bon, carrément, des enfants qui sont passés à droite, hein, mais il y a aussi des enfants qui s'inscrivent dans des luttes des gauches, mais qui trouvent à redire sur certaines choses, quoi. Ou qui veulent marquer des distances.
Je pense que le côté viriliste, est un grand truc. Je pense que c'était que la misogynie, le sexisme, la transphobie, il y a des grands trucs qui font que il y a énormément de personnes exclues de ces mouvements. Et du coup, oui, pour moi, il n'y a pas de possibilité de société ou justice sociale sans les putes, sans les personnes trans. Enfin, aujourd'hui, je vois en fait, et moi aussi, enfin, j'ai grandi dans un truc de silence par rapport à ça, parce que c'était, je pensais que j'avais une maladie mentale, tu vois, et c'est, ça a été jamais, absolument jamais parlé dans mon parti politique, il n'y avait aucune place pour ça, et c'était une lutte mineure, genre toute la lutte identitaire, et du coup, ne pas penser en termes d'autodétermination et d'alliance, et toute cette vision universelle, je pense que c'est une vision du coup qui rejoint d'une certaine façon. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est ça une différence très forte avec le colonialisme. Enfin, du coup, c'est pour ça aussi que il y a pour moi des alliances dans certaines masculinités de gauche, de migrantes, de populations originaires. Je pense qu'il y a des trucs là-dedans, des alliances à faire. Mais franchement, c'était les années 60 et 70. T'as pas pensé à ramener les queers et les... Enfin, vraiment, c'est chaud, tu vois. Enfin, c'était là. Et il y a eu quand même un... Je lis rien qui soit... parce qu'il n'y avait pas trop de... J'ai pas trouvé des gwyn dans le mouvement de gwyn, des queers... dans le mouvement de... Et il n'y avait pas de solidarité avec ces gens-là. Et du coup, les personnes trans en Uruguay, après, là, on a milité il n'y a pas longtemps pour une loi intégrale pour les personnes trans. Et là, moi, j'ai eu l'histoire, le récit en première personne des personnes trans, surtout notamment des meufs trans, et ce qu'on faisait avec elles dans la dictature. Et je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu des solidarités, des alliances là-dessus, des protections, je ne peux pas croire. Du coup, oui, ça pour moi, c'est un... Enfin, avec mon père, ça chauffe là-dessus. Ça ne te paraît pas un pays rétrograde et homophobe? C'est vrai que c'est un pays qui a rompu avec l'Église dans les années 50. Déjà, ça le différencie pas mal de... Et que ce qu'il voulait, il voulait que ce soit le pays où les Européens pouvaient venir faire du tourisme. C'était hyper important. Du coup, ils ont vendu beaucoup le pays comme la Suisse d'Amérique du Sud, pendant que le pays crevait de faim. C'était le même moment où il y avait la police qui tuait les travailleurs de la canne à sucre, et où il y avait les énormes crises de pauvreté, que les syndicats ont commencé à marcher pendant tout le pays. C'est le moment où l'Uruguay est déclaré la Suisse d'Amérique du Sud. Et où, le moment où il y a une énorme vague de tourisme qui vient, et du coup, ça va faire grandir beaucoup le côté, ça va faciliter le passage au néolibéralisme après pour l'Uruguay. Donc il y a un énorme double discours là-dessus, et il y a une énorme réalité très très partagée. Après, il y a le gouvernement de gauche qui vient dans les années 2005, et il y a tout un travail qui repose sur des mouvements sociaux, qui va décriminaliser, genre la beuh, qui va faire le mariage égalitaire. Tout ça se passe maintenant. Si, ça s'est passé comme ça. Non, après, ce n'est pas la question. Hein. On ne compare pas la France à l'Uruguay en termes de société patriarcale. Je dis qu'en fait, les mouvements de gauche qui est révolutionnaire de l'époque étaient très homophobes. Pas d'actualité pour ces groupes-là, mais pour d'actualité pour les gens. Oui, ça a existé. Les personnes trans ont toujours existé. Les personnes queer ont toujours existé. Ouais,
il n'y avait pas les revendications qu'il
pouvait y avoir. Bah justement, parce qu'il n'y avait pas les revendications, parce qu'ils étaient complètement silencieux aussi, parce qu'il n'y avait pas ces alliances. Ça, c'est ma perspective. La vraie politique était celle de la lutte des classes, oui.
Tout est politique.
Oui, mais c'est ça. C'est ça qui était porté, oui.
Ouais, juste une question. Alors je sais pas, peut-être c'est à côté, mais je me demandais, du coup, tu t'écris en français et est-ce que tu penses le traduire en espagnol? Est-ce que tu as envie de le porter dans une discussion en uruguay ou pas? Pourquoi est-ce que justement aussi sur ce travail de mémoire et de discussion sur les enfants et l'héritage un petit peu de ce moment-là et ces discussions-là? Voilà, sur le versant de le ramener en uruguay et en espagnol.
Je
pas si c'est clair.
Oui, je sais pas. Parce que je pourrais pas le traduire parce que je pense que je devrais le réécrire parce que je parle pas comme ça. Enfin, ce serait un autre livre. Et aussi, comme ça parle vraiment de ma famille et de la vie personnelle de ma famille aussi, c'est aussi intense. Après, ils l'ont lu, ils étaient là, bon, vas-y. Mais ouais, je sais pas, ça dénonce un peu deux mecs, notamment qui ont beaucoup de pouvoir là-bas en ce moment. Enfin, je sais que si je le publie, je vais avoir des problèmes, mais après, oui, peut-être que oui. En fait, peut-être que oui, non, c'est oui. Idéalement, c'est un truc que je veux. Ça me fait un peu peur par rapport aux conséquences familiales, plus que tout. Il y a genre le mec de ma sœur qui est vénère, il y a son père aussi. Et du coup, ça me fait des trucs là-dessus. Mais ouais, du coup, je me disais, est-ce que j'attends qu'il meure? Mais sinon, oui, enfin, ouais, je pense que oui, que je vais... Non, d'ailleurs, on a le projet de peut-être l'éditer en espagnol, de le réécrire et l'éditer en espagnol. Mais oui, oui.
En fait, à la base, l'idée, c'était qu'effectivement, il y ait la version française qu'a écrit Lou et qu'il y ait aussi la version espagnole écrite de Lou qui serait pas une traduction, mais un nouveau récit en espagnol de la même, de la même histoire. Mais en fait, il s'est avéré que, comme nous, on essaye de vivre nos livres le moins cher possible, en fait, si on faisait un livre le double, ça ferait qu'on aurait dû faire un livre trop cher et que ça nous semblait un peu... Autant tous les livres qu'on publie qui ne sont pas en langue française initialement, on traduit toujours la version originale, du coup, ça pour faire des éditions bilingues. Mais comme là, en fait, il s'est avéré qu'on a réfléchi que ce n'était pas forcément faire un livre bilingue, puisque ce serait plutôt deux livres qui parlent la même chose, mais deux livres différents, on a senti que ce n'était pas forcément indispensable par rapport à ce travail qu'on fait des traductions perçues au sein d'un même livre. Et c'est pour ça que là, on est en train de chercher plus ou moins une maison d'édition en Espagne, en fait, pour le publier dans le monde hispanophone. Ouais.
Bonsoir. Ça marche pas ? Voilà. Si. Et par rapport à la version en espagnol, du coup, comme là tu disais qu'il y a une espèce de transformation de la langue française, comment ça va se passer pour la version en espagnol ? Au niveau de la forme, de l'orthographe et des expressions aussi, c'est intéressant.
Je sais pas. Ma réponse à tout. Je sais pas, je pense que je vais l'écrire comme j'écris. Enfin, je vais l'écrire comme j'écris en espagnol. Parce que c'était pas le but de faire une révolution de l'écriture ni rien, en fait. C'est juste que c'est comme ça que j'écris. Donc je vais écrire en espagnol comme j'écris. Aussi avec des fautes d'orthographe, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais oui, non. Je pense que oui, que je vais écrire comme j'écris. Je pense que c'est un récit oral, en fait, mis en texte, plutôt. Et que je pense que ça va être comme ça. Mais non, je vais pas, genre... Mais après, il n'y a pas d'apostrophe, tu sais, il n'y a rien en espagnol, il n'y a rien qui se passe. Tu confonds un peu les B et les V, mais tu veux dire M, tu mets un M, tu vois. C'est hyper simple, c'est tranquille.
Ouais, merci beaucoup. Vraiment, merci pour toutes ces questions. Vraiment, merci à vous deux. C'était très bien.
C'était Rencontre avec Elle Etchart autour de son livre Tupa Madre, paru aux éditions Terrasse.
Radio Livre 2.